21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radion et notamment à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. En ce début de nouvelle année, je vous présente mes meilleurs voeux, des voeux bien sûr de bonne santé, des voeux de joie, d'enthousiasme et de sérénité. Et puis j'espère que cette année nouvelle vous verra entouré et accompagné de belles et intelligentes lectures. Je voudrais aussi rappeler qu'en cette année 2017, Wagon Livre entame sa 7e année de diffusion sur Radion, puisque cet unique rendez-vous littéraire hebdomadaire sur les ondes est unique en Bourgogne depuis sa création en novembre 2010. On commence cette nouvelle année avec une émission, disons une rétrospective d'anciens reportages déjà proposés. Comme vous le savez, 2017 va être une année d'élection présidentielle dans notre pays. On va beaucoup entendre parler de nation et de la France. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous proposer en nouvelle diffusion une interview de Jean-François Kahn que j'avais enregistrée à Autun en avril 2013. Dans un premier temps, le journaliste évoque une histoire de France incorrecte, l'invention des Français du temps de nos folies gauloises chez Fayard. Et puis, Jean-François Kahn revient ensuite sur un livre qu'il a fait paraître en juin 2012 et qui avait pour titre « La catastrophe du 6 mai 2012 ». L'expression « la catastrophe du 6 mai 2012 », puisque la date évoque la victoire de François Hollande, bien sûr, en elle-même, ce n'est pas une catastrophe, cette élection de François Hollande, mais ce que Jean-François Kahn a voulu signifier, c'est que cette élection présidentielle marquait un échec de la gauche derrière une victoire apparente, tandis qu'une droite dure, populiste, sorte de bombe à retardement, promettait sans doute d'éclater dans les prochaines années. Mais écoutez, on verra bien au mois de mai prochain, rétrospectivement, en tout cas, cette interview de Jean-François Kahn est intéressante parce qu'elle rappelle que nous traversons une crise extrêmement grave, une crise morale, une crise sociale, une crise économique. Et puis Jean-François Kahn évoque la notion de guerre civile froide qui s'est insidieusement installée dans notre pays. Jean-François Kahn évoquera aussi l'attitude de François Bayrou. François Bayrou, pour lequel le journaliste a voté à deux reprises, n'hésitant pas à affirmer que ceux qui ont voté Hollande ou Sarkozy en 2012 devraient avoir honte. Une histoire de France incorrecte, l'invention des Français du temps de nos folies gauloises. De quoi parle cet ouvrage? Retour sur nos ancêtres les Gaulois. Allez, rapide cours d'histoire, tout de suite sur Radion avec Jean-François Kahn à notre micro.
Il y a beaucoup d'histoires de la nation. Comment s'est créée la nation française? Comment s'est créée la France? Comment s'est créée la République, à la limite? Mais il y a très peu de livres sur comment, peu à peu, a émergé quelque chose qui va devenir les Français. C'est-à-dire de briques, de brocs, de tribus, de bandes, plus ou moins sauvages, tout ça, une agglomération, quelque chose va se modeler, hein, qui va devenir les Français. Et donc j'ai voulu entamer une grande histoire, c'est le premier tome, de la formation des Français. Et là, dans ce premier tome, ça va des temps néolithiques au premier siècle des Gallo-Romains. Bon. Mais naturellement, ça recouvre en grande partie l'histoire des Gaulois. Donc je raconte. Mais surtout, je me suis aperçu d'une chose, c'est que si vous prenez de moins 600 avant Jésus-Christ, quand arrivent les Gaulois en France, en Gaule, à plus 500, l'arrivée de Clovis, par exemple, enfin, hein, 1000 ans, c'est énorme, 1000 ans. Eh bien, demandez aux gens, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans? Au mieux, ils vont vous citer Vercingétorix, Alésia, ou et le baptême de Clovis. C'est tout. En 1000 ans, c'est un trou. C'est un énorme trou. Oh, tout se passe. C'est-à-dire que c'est en vérité, c'est tout, absolument tout se passe là. C'est une espèce de creuset. Et c'est là que se forme la France, que s'affirment les Français, que ce qu'on est quelque part prend racine. Et on ne sait rien. Et quand vous plongez là-dedans, vous apercevez, mais non seulement tout se passe, absolument tout se passe, mais c'est extraordinaire. Aucun romancier n'oserait rêver une histoire aussi furieuse, aussi tragique, aussi héroïque, aussi lamentable aussi. Il y a tout. Il n'y a aucun, c'est tous les romans d'aventure sont là-dedans d'une certaine manière. Et donc j'ai voulu reconstituer ce qui se passe dans ce creuset et qui va finir par devenir les Français et donc la France.
Mais alors quelles sont vos sources alors, Jean-François Kahn ?
Les sources, c'est absolument toutes les sources existantes, c'est-à-dire les sources grecques, les sources romaines. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sources gauloises parce que les Gaulois, les curés, leur avaient interdit l'écriture, les druides. Les druides leur avaient interdit l'écriture pour se garder le monopole de la transmission. C'est pratique hein, comme système. Donc ils n'écrivaient pas. Donc il n'y a pas de sources gauloises. Mais en revanche, il y a beaucoup de sources grecques, beaucoup de sources romaines. Il y a beaucoup de sources archéologiques. Et donc j'ai utilisé absolument tout ce qui existe aujourd'hui.
Donc on rappellera, c'est l'invention des Français du temps de nos folies gauloises, c'est chez Fayard. Alors il y a eu Menteur chez Plomb en 2012, on s'était vu au château du Clos de Vougeot à Livre-en-Vigne l'année dernière pour la catastrophe du 6 mai 2012. Alors on parle un peu politique, Jean-François Kahn, on se fait plaisir. Oui ?
Ouais, c'est votre problème.
Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en France, là ? Voilà que l'affaire Cahuzac, les médias se déchaînent, la classe politique tout d'un coup dit qu'il faut moraliser la vie politique. N'y a-t-il pas un peu d'hypocrisie dans tout ce jeu, dans tout ce remue-ménage ?
Il y a énormément d'hypocrisie. Évidemment qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Maintenant, on a appris aujourd'hui que la plupart des dirigeants du MP savaient tout sur l'affaire Cahuzac. Donc on peut se poser la question de savoir s'ils ne le tenaient pas.
Bon, et vous n'étiez pas informé, vous ?
Non, la seule chose, c'est que je trouvais très antipathique. C'est un personnage très antipathique. D'habitude, les escrocs sont très sympathiques. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils trompent leur monde. Alors lui, pour le coup, il était très sympathique. J'ai eu l'information de Mediapart comme tout le monde. J'ai pensé qu'il devait y avoir quelque chose de vrai, mais non, franchement, je n'étais pas informé. Mais il y avait beaucoup de gens à droite qui étaient informés. Mais pourquoi ? Parce que le député de droite de la circonscription qui était à l'origine des fuites les avait informés. Leur avait donné la fameuse bande, leur avait... Voilà. Mais enfin, c'est hypocrite. Vous imaginez si on publiait la liste des... Enfin, c'est hypocrite. Non, attention. Le fait que notre ministre du budget, qui est chargé, entre autres, de traquer la fraude fiscale, en vérité, commettre le crime contre lequel il combat. C'est inadmissible. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, le type, froidement, il dénonce les fraudeurs du fisc, etc. Et en vérité, il est lui-même un gros fraudeur du fisc. En plus, un fraudeur du fisc, c'est-à-dire ce qu'il dissimulait, c'était quand même des commissions occultes que lui versaient des laboratoires pharmaceutiques pour ne pas payer d'impôts. Et, phénomène aggravant, il est socialiste. Si c'est ça, être socialiste...
Alors, les socialistes ont un problème dans leur rapport à l'argent.
Certains ont un problème avec rapport à l'argent. Donc c'est absolument scandaleux. Cela étant, c'est vrai que moi, si je propose... Pourquoi pas, je vais l'écrire d'ailleurs. Si je propose que les 5000 fraudeurs du fisc dont on a repéré les noms et qui existent au ministère des Finances, si je propose qu'on publie leur liste, ça serait un bon exemple pour moraliser. Publier leur liste. Vous verriez les hurlements, et en particulier, y compris à droite. Et
peut-on dire actuellement que nous traversons une crise morale ?
Oui, morale, civilisationnelle, existentielle, économique, sociale. On traverse une crise extrêmement grave.
Alors la catastrophe dont vous parliez, la catastrophe du 6 mai.
C'est ce que je disais. Si vous le relisez, c'est vraiment tout ce que je disais. Tout ce que j'ai dit s'est passé. Et en train de se passer. Et ce que je disais au début, c'est que si on continue comme ça, on aura le Front National dans 5 ans. Je pense qu'il peut y avoir... parce qu'il y a deux phénomènes. Vous avez un phénomène de la gauche totalement déliquescence, enfin la gauche socialiste totalement déliquescence.
Attaquée par Mélenchon notamment, par une gauche Mélenchon, révolutionnaire.
Mais on sent qu'elle ne sent plus rien, ne croit plus en rien, elle n'a plus... il n'y a plus de conviction, ils sont prêts à... C'est des arrivistes, etc. Et de l'autre côté, pas la droite entière, mais une fraction de la droite qui se radicalise de façon terrible. Terrible. C'est hystérique, bon, avant même cette affaire. Et donc, on peut avoir une convergence entre une droite très radicalisée et le Front National qui gagne les élections. Je ne vous dis pas dans quel état ça mettrait la France. Bon. Donc, on a ces deux problèmes. Et donc, si on veut que la France en sorte, si on veut qu'on n'aille pas de crise en crise, si on ne veut pas que tout pète, si on ne veut pas vivre une espèce de guerre civile froide, il faut réagir et il faut faire en sorte Oui, de rétablir une stabilité républicaine. Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas vivre dans une situation de guerre civile. Regardez, si Sarkozy avait été élu, d'abord, ça aurait été une catastrophe aussi, et il se serait retrouvé très vite avec 26% de gens favorables. Hollande, il a 26% de gens favorables. On peut gouverner un pays en temps de crise où il faut le mobiliser, il faut sortir, il faut faire des réformes fondamentales avec un socle de confiance de 26%. Mais évidemment, c'est impossible. Or, c'est notre système qui veut ça. Donc il faut absolument dire, écoutez, j'ai un projet, nous avons un projet, il vaut ce qu'il vaut d'un projet, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on fasse des réformes, il faut qu'on imagine peut-être même un autre modèle de société que celui-là, il faut tout ça, il faut remobiliser la population. Vous êtes d'accord avec moi avec ce projet? Ben venez, que vous soyez de droite, de gauche, de centre, il faut qu'il y ait une coalition de tous les gens comme en 44, comme Mendès France pour sortir de la guerre d'Indochine, comme De Gaulle pour sortir de la guerre d'Algérie. Il y a un moment où des gens sur un projet doivent se réunir. Si c'est pour sortir dans ce système gauche-droite, où de toute façon, quel que soit le gouvernant, il se retrouve avec une base sociale de 28%, alors on ne s'en sortira pas. Voilà. Alors donc, il faut changer le système institutionnel, c'est évident.
Mais est-ce qu'il faut changer le gouvernement comme certains le réclament ?
Totalement. D'abord, il faut changer le président, mais on ne peut pas. C'est-à-dire que, logiquement...
Il faut changer le président de la République.
Non, je dis, on serait dans un pays démocratique, comme en Italie, où on serait dans un pays démocratique, le type qui gouverne, qui dirige, on le changerait. C'est ça la démocratie. On le change. Bon, là, en France, c'est pas possible. Nos institutions font que le président, il est là pour 5 ans. Très bien, on peut pas. Bon. Mais on peut l'appliquer, la Constitution. Elle dit quoi, la Constitution ? Elle dit tout simplement que c'est les Français qui élisent un Parlement. C'est le Parlement qui accorde l'investiture à un Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la France. C'est écrit dans la Constitution. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est créer un gouvernement de salut public, un gouvernement absolument de combat, qui guide... qui mène avec un projet, avec une finalité, avec un plan, une cohérence mobilisatrice, qui mène la politique de la France. Et on dit au président de la République, revenez ce que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes un juge de paix, vous êtes un arbitre, mais voilà, vous n'êtes plus le type qui conduit au jour le jour la politique de la France. En plus, vous le faites mal et vous n'avez pas envie. Alors redevenez que vous reviendrez, on l'appelle pépère déjà, devenez le pépère de la nation et vous redeviendrez populaire.
Jean-François Kahn, vous êtes toujours partisan de François Bayrou, qui pour l'instant est assez discret.
Non, moi je ne suis pas particulièrement partisan de François Bayrou. J'ai voté François Bayrou 2 fois, et en particulier la dernière fois. Je ne sais pas ce que je ferai demain, j'ai voté la dernière fois. Pourquoi ? J'ai répété, si Sarkozy est élu, ça débouchera sur un grand désastre. Et si Hollande est élu, ça débouchera sur une immense désillusion, donc une forme de catastrophe. Et donc, je suis patriote, figurez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. C'est le destin de mon pays. Et donc, j'ai dit, je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais c'est évident que le profil de Bayrou correspond plus à ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui. Eh bien, je suis très fier d'avoir ça. Je pense que les autres devraient avoir honte, finalement, de leur vote. Pas au deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais ceux qui, au premier tour, ont voté Hollande ou Sarkozy devraient avoir honte. Moi, je suis très fier d'avoir choisi une solution qui était patriotiquement sans doute le meilleur pour le pays, même si j'ai des désaccords avec Bayrou.
À l'instant, c'était le journaliste Jean-François Kahn, enregistré à Autun lors de la fête du livre d'Autun. C'était en avril 2013. Vous écoutez Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On marque tout de suite, si vous le voulez bien, un premier temps de pause musicale. Et bien évidemment, on se retrouve dans une poignée de minutes. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. We'll be right back.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous poursuivons ce numéro de Wagon Livre, cette fois-ci avec un reportage enregistré au château du Clos de Vougeot en septembre 2012. J'avais rencontré Jean-Christian, petit-fils historien, à qui on doit notamment une biographie de Jésus. Et puis, il y a quelques années, Jean-Christian, petit-fils, a produit pour les éditions Plon un dictionnaire amoureux de Jésus. Vous vous souvenez toutes et tous du Grand Mône, ce magnifique roman d'Alain Fournier, disparu à l'âge de 28 ans lors de la Première Guerre mondiale. Et Jean-Christian, petit-fils, a écrit une biographie littéraire pour montrer en fait l'enfantement de ce roman d'Alain Fournier. Cette biographie littéraire a pour titre « Le frémissement de la grâce », le roman du Grand Mône. Il s'agit de rappeler aussi qu'à l'origine de ce roman, c'est une rencontre avec une jeune fille le jour de l'Ascension, le 1er juin 1905. Cette jeune fille s'appelle Yvonne de Quièvrecourt, qui deviendra dans le roman de Alain Fournier, Yvonne de Galet. Explication tout de suite de la part de Jean-Christian, petit-fils, Le frémissement de la grâce, le roman du Grand Mône.
Je dirais que c'est un coup de cœur parce que j'aime beaucoup Alain Fournier, le Grand Mône, et tout particulièrement sa correspondance. J'ai été passionné quand j'avais 22-23 ans en lisant sa correspondance avec son ami de la Canale, Jacques Rivière, son futur beau-frère. C'est une correspondance qui nous introduit dans le monde littéraire, artistique, culturel, musical de la France d'avant 1914. Extrêmement précise, pointue, avec deux tempéraments qui s'affrontent. Et c'est à partir de là que j'ai rédigé cet ouvrage qui n'est pas une biographie, à proprement parler, qui est un récit littéraire, ou si vous voulez une biographie, mais une biographie littéraire, sans tout de l'appareil critique un peu lourd qu'on trouve dans certains ouvrages, que j'ai moi-même pratiqué dans d'autres biographies. Là, il s'agissait d'un essai, tout simplement, montrer le personnage, et surtout l'enfantement du Grand Mône, puisque Alain Fournier, qui meurt à 28 ans, donc très jeune, fauché à la guerre 14, le 22 septembre 1914, eh bien, a mis tout son être dans cette œuvre. Et ce que j'ai voulu montrer, donc, c'est la création littéraire. C'est une réflexion sur l'écriture romanesque et cette vie aussi qui est assez romanesque. De ce jeune poète aussi, qui a beaucoup de sensibilité et qui a mis toute cette sensibilité dans son livre.
Et puis beaucoup de magie, ou plutôt beaucoup de féerie dans ce roman du Grand Mône.
Oui, alors voilà, c'est le charme du Grand Mône, c'est de partir de la réalité et puis tout doucement, très lentement, de nous introduire dans un autre monde. Et il a fallu beaucoup de temps à Alain Fournier pour parvenir à cette alchimie, avec beaucoup de tâtonnements. Il était très marqué par le symbolisme. Au départ, il voulait créer un roman sans personnage, avec des idées pures. Et puis, il s'est aperçu que c'était impossible. Et là, ça a duré plusieurs années, cela. C'est seulement, au bout d'un certain temps, il dira « J'ai trouvé mon chemin de Damas ». En effet, il trouvera par une écriture toute simple, en mettant beaucoup de sa vie et en racontant tout ce qu'il a vécu, notamment dans son enfance à Épineuil-le-Fleuriel, donc dans le Cher, dans le Berry, avec tous les souvenirs qui remontent de son père instituteur, de sa mère institutrice. On voit encore aujourd'hui à Épineuil-le-Fleuriel cette école qui a été reconstituée intégralement comme elle pouvait l'être, et c'est extrêmement vivant. Et tout cela va en fait dépasser bien sûr ces simples souvenirs, parce que Alain Fournier vit constamment, c'est un des charmes et un des mystères du personnage, vit constamment dans le passé. Toute découverte est une redécouverte chez lui. Et donc c'est assez étonnant quand par exemple, il découvre le parc de Versailles, il va nous dire, c'est beau comme, comme dans le Berry. Ça me rappelle le Berry. Donc on a un mode de fonctionnement assez étonnant chez lui.
Est-ce qu'on peut dire que la genèse du Grand Mône est liée à une aventure sentimentale qui n'a pas abouti pour Alain Fournier?
Ah oui,
cette souffrance, ce roman n'aurait pas.
Voilà. Alors, au cœur de sa vie, il y a cette fameuse rencontre du 1er juin 1905, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Il voit, en descendant les marches du Grand Palais, à la suite d'une exposition, l'exposition La Nationale, eh bien, une jeune fille avec une femme plus âgée, un peu voûtée, qui lui tient le bras. Et il va être émerveillé par cette beauté, une blonde aux yeux bleus. Son regard, les deux regards se croisent et il va la suivre. Il va prendre le bateau mouche jusqu'au début du boulevard Saint-Germain. Et il est absolument fasciné par cette jeune fille. Il va attendre sous ses fenêtres. Et c'est seulement le jour de la Pentecôte qu'il la reverra, il la suivra jusqu'à à l'église Saint-Germain-des-Prés. Et puis, à partir de là, commencera, comme il dit, cette grande conversation avec elle qui va le conduire le long de la Seine jusqu'au pont des Invalides. Conversation merveilleuse dont on a peu d'éléments, peu de renseignements, mais il y a une espèce de promesse. Tous les deux sont attirés l'un vers l'autre. C'est un amour très pur qui naît, qui jaillit de là. Et cette aventure toute simple, finalement, va marquer profondément Alain Fournier, va le façonner et en même temps le conduire à une grande souffrance, ce que vous disiez, avec une parfois des hallucinations. C'est une aventure qui va durer 8 ans et qui ne conduira qu'à une libération par l'écriture et dans l'écriture du Grand Mône, puisque Yvonne de Quivrecourt, c'est le nom de la jeune fille, deviendra Yvonne de Galais, la merveilleuse héroïne du Grand Mône.
Jean-Christian Petit-Fils, personnellement, j'ai lu le Grand Mône pour l'avoir étudié quand j'étais élève en classe de 3e. Est-ce qu'aujourd'hui, ce roman peut encore faire rêver la jeunesse qui est plutôt agglutinée aux écrans d'ordinateurs, de télévision et autres tablettes et smartphones?
Eh bien, moi je pense que oui, ça peut paraître peut-être paradoxal en effet, mais c'est pas seulement une histoire banale d'une aventure extraordinaire, d'un amour extraordinaire, c'est la quête de l'absolu qui se trouve chez Alain Fournier, la quête des étranges paradis perdus, avec un sentiment d'une perte de l'innocence qu'il faut absolument retrouver. Et c'est ça qui fait la puissance fascinante de ce roman qui est universel.
À l'instant, c'était Jean-Christian Petit-Fils pour Le Frémissement de la Grâce, le roman du Grand Mône aux éditions Fayard, une biographie littéraire qui est en fait l'exploration d'un paysage amoureux unique, l'histoire d'une rencontre fugace qui a illuminé pour toujours la vie d'Alain Fournier, mais qui éclaire aussi son œuvre, puisqu'elle, cette rencontre est aux sources d'inspiration d'une des œuvres les plus célèbres de la littérature française. En 2017, nous marquerons le 55e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Nous entendrons, juste après la pause musicale, le témoignage de René Schmitt, un bourguignon, qui était soldat de 2e classe en 1958 en Algérie, où il effectuait son service militaire. Il a retrouvé toute la correspondance qu'il envoyait alors à ses parents en Bourgogne. Et ce recueil de lettres a pour titre « Quand la Méditerranée traversait la France ». On en parlera avec René Schmitt après la pause musicale. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
One man on a lonely platform, one case sitting by. sent la pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne puisse aussi en vrai.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Il était soldat de deuxième classe en 1958 en Algérie où à l'âge de 23 ans il effectuait, là-bas, son service militaire. Il s'appelle René Schmitt et il a fait paraître un recueil de lettres échangées entre lui, le jeune militaire en Algérie, et sa famille bourguignonne restée en France. Le livre a pour titre « Quand la Méditerranée traversait la France ». J'ai souhaité rediffuser ce témoignage parce que en cette année 2017, nous allons fêter le 55e anniversaire des accords d'Évian qui mettaient fin aux événements d'Algérie, très précisément le 18 mars 1962. Alors, on écoute René Schmitt qui évoque son ouvrage. René Schmitt que j'avais rencontré en juillet 2012 lors du Salon du Livre d'Anneau dans la Nièvre. René Schmitt.
Je suis bourguignon, j'ai des attaches à Anneau, Cussy et Saumont, donc ce sont des villages tout à fait voisins, et j'habite la région dijonnaise.
Vous venez donc de faire paraître en auto-édition un recueil de lettres, des lettres que vous avez écrites. Vous étiez donc un jeune homme appelé du contingent, vous avez fait votre service militaire en Algérie à partir de l'année 1958, c'est-à-dire l'année du retour de De Gaulle au pouvoir, mais la guerre d'Algérie avait commencé depuis 4 ans.
Oui, mais écoutez, j'ai donc stationné en Algérie pendant 8 mois, 9 mois même, et j'ai terminé mon service, et on l'anticipe déjà sur la fin, mais j'ai terminé mon service sur Dijon, où j'ai été rapatrié sanitaire au bout de 9 mois suite à une maladie assez grave. Enfin, c'était une jaunisse très très grave, quoi.
Vous avez donc retrouvé les lettres que vous avez écrites à vos parents pendant votre service militaire, donc des courriers que vous avez relus avec 50 ans après les avoir rédigés.
Oui, et puis c'est pour répondre un petit peu à ma guerre aussi. Il y a toutes sortes de guerres, des guerres mondiales, des guerres coloniales, ainsi de suite. Et c'est pour répondre aux questions de mes petits-enfants. J'ai donc ressorti ce courrier que j'avais conservé religieusement. Et moi, pour moi, c'est presque un trésor de retrouver des expressions et surtout des sentiments que j'avais vécu avec des camarades qui venaient de toutes sortes de régions de France, qui avaient toutes sortes de cultures. Et ça m'a vraiment... De ce côté-là, me paraît très très important.
Vous avez donc classé ces lettres, bien évidemment, dans l'ordre chronologique. Certaines même sont, certaines d'entre elles portent même l'heure. Hein. Il y a une certaine précision. Alors, comme vous dites, ce sont des écrits très personnels, avec peut-être des détails qui aujourd'hui peuvent paraître superflus pour le lecteur de 2012.
peut-être, mais là, ça a peut-être la valeur de ce document qui, bon, c'est une petite histoire personnelle qui rejoint peut-être la grande histoire. Enfin, c'est tout au moins l'opinion de Jean Vigreux qu'un certain nombre d'auditeurs de la région Bourgogne connaissent, puisqu'il est maître de conférence à l'Université Bourgogne. Et il est éminent, c'est une éminente personne qui m'encourageait à publier ce courrier. Mon propos, enfin mes questionnements, c'était savoir si j'en faisais un petit opuscule pour la famille à 20 exemplaires ou pour plusieurs centaines d'exemplaires.
Et à combien d'exemplaires est tiré donc votre recueil de lettres qui a pour titre « Quand la Méditerranée traversait la France ».
Donc il est tiré à 350 exemplaires.
Et pour vous, ça vous a soulagé de faire ce travail ?
Ça m'a beaucoup soulagé parce que ça m'a libéré d'un certain nombre de poids, de choses qui sont non dites. Et ça m'a permis, comme je suis assez inséré dans le monde associatif de la région, un certain nombre de collègues se sont manifestés. J'ai reçu plusieurs dizaines de courriers, notamment de ces personnes qui jusqu'à présent n'ont jamais osé parler, des gens qui ont beaucoup souffert, notamment une personne qui m'a dit « Merci pour votre bouquin, parce que j'étais pendant 40 ans dans la déprime et j'arrivais, grâce à votre livre, de pouvoir parler à ma femme d'une manière tout à fait sereine. » Et c'est une thérapie, en fait. Il y a beaucoup de gens, et on est dans l'année du 50e anniversaire des accords d'Évian, ce qui n'est pas chose très, très facile à vivre pour un certain nombre de personnes. Et bon, je pense que c'est important d'apporter ce témoignage.
Je n'ai fait que parcourir votre livre, et je m'en excuse, mais quels sont les moments forts ou cruels que vous avez éprouvés pendant ce service militaire en Algérie entre 58 et 59 ?
Ben, fort et cruel, je viendrai tout à l'heure à votre propos, mais je voulais simplement dire que ce que j'ai trouvé d'abord de positif, c'est une grande, grande camaraderie et un grand partage. Notamment le brassage de toutes les catégories sociales, des gens riches, des gens pauvres, et on est tous mis dans le même chaudron et il faut marcher. L'autre question qui me préoccupe, c'était dans l'armée professionnelle, il y a des gens de très, très grande valeur qui avaient la lourde charge de faire marcher les troupes, mais il y avait des gens aussi qui étaient, notamment des petits sous-officiers qui étaient chargé de nous en faire baver, quoi. Et c'est là, je ne vais pas dire l'avilissement de l'homme, mais pas loin, quoi.
Vous avez connu quand même des moments de déprime,
des moments de brimade. Des brimades qui étaient difficiles à accepter. Pour quelqu'un qui avait un minimum d'éducation, nous faire mesurer la place d'armes avec des allumettes, ramener des bouchons brûlés pour s'en faire des marques. On n'avait pas forcément des bouchons de liège. Mesurer une place d'armes comme une place de terrain de foot avec des allumettes, bon, ça me paraît pas forcément intelligent.
Et on vous a fait faire ce genre de...
Ah oui, puis alors, bon, ce qu'il y a aussi, c'est des récits. Moi, donc, je n'ai pas été en unité combattante, mais j'ai eu des récits de copains de grande valeur, dignes de confiance. Et ça rejoint un peu la grande histoire dans laquelle il y a eu des exactions, des tortures des deux côtés, des côtés belligérants, et c'était très 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 dur à vivre.
Alors, soyons bien d'accord, donc vous n'avez pas véritablement combattu contre les Fellaha ou...
Je n'ai pas eu d'action violente, non.
Et vous aviez des échos tout de même ?
Des échos, et c'est le livre me raconte ce que j'ai entendu par des gens dignes de foi, et puis ça rejoint un petit peu tous les articles qui ont pu paraître depuis, les articles à l'époque qui parlaient des anomalies. Et ce livre a fait réagir un certain nombre de personnes, parce que là, je prends position d'une manière assez... je peux dire politique, mais un certain nombre de copains ont trouvé curieux que le général Bijard, on propose des honneurs au général, ou la dépouille du général Bijard, alors qu'on n'en fait pas tant d'écho, par exemple au général de Bollardière, qui lui a été totalement opposé à la pratique de la torture, donc il a démissionné de l'armée.
Le jeune homme qui écrit à ses parents, le jeune homme qui fait son service militaire en Algérie, est-ce que le jeune René Schmitt, qui a donc 22 ans, est-ce que vous cachez, est-ce que vous vous auto-censurez, cachez-vous certaines choses qui pourraient faire du chagrin à la maman ou au papa.
Je n'ai rien. J'ai peut-être un peu atténué un certain nombre d'événements qui se passaient, bon, mais je n'ai pas enjolivé du tout. Je n'ai pas enjolivé. Et pour la petite histoire qui n'en est pas une, donc c'est 180 lettres. Ah, c'est 180 lettres, mes parents répondaient pratiquement par retour. Donc je pourrais... Bon, c'est du fantasme. Je pourrais rééditer un courrier, ce qui se passait en Bourgogne pendant 9 mois, puisque j'avais le détail de toute la vie qui se passait, aussi bien vie familiale que la vie politique du coin.
Un témoignage intéressant sur le sort d'un appelé du contingent en Algérie en 1958, « Quand la Méditerranée traversait la France », c'est le titre de l'ouvrage de René Schmitt. Je rappelle que cette année 2017, nous commémorons le 55e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance de ce pays. On se retrouve dans une poignée de minutes, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et c'est le premier numéro de votre émission littéraire pour la nouvelle année 2017.
Il y en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Il y en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui ont peur plus de jouer les six symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle que le talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous avez là du gospel dans la voix.
Vous connaissez toutes et tous Olivier Barrault, le journaliste qui, depuis 1991, sur France 3, présente Un livre, un jour, qui est diffusé du lundi au vendredi, plutôt en fin de journée. Nous avions rencontré Olivier Barrault au château du Clos de Vougeot en 2012, et à notre micro, il nous avait alors présenté Ciné Club, un livre paru en 2010, mais toujours disponible chez Flammarion. Arletty, Bourville, Daniel Darieux, Jean Gabin, Louis Jouvet, Fernandel, Micheline Prel, Yvonne Printemps, des débuts du cinéma parlant à la fin du noir et blanc, autrement dit des années 30 à la nouvelle vague, des visages du cinéma dit d'auteur qui ont fait rêver et qui continuent de passionner des générations de spectateurs. Alors plus d'un siècle après l'invention du cinématographe, il était temps de rendre hommage aux interprètes du cinéma français. Olivier Barrault.
Ça s'appelle Ciné Club. Et ce sont 250 portraits d'acteurs et d'actrices du cinéma français, en gros du début du parlant, vous voyez, vers de 1930 jusqu'à, je dirais, l'avènement de la nouvelle vague, 1960. C'est donc très largement un cinéma en noir et blanc, mais en même temps un cinéma extraordinairement prestigieux, dont on aime toujours revoir les films, les éléments, ça crée à la fois de la nostalgie, du souvenir, et puis je crois que ça précise auprès des lecteurs ce qu'ont été les carrières de ces gens, dont on connaît souvent le visage et pas forcément le nom, vous voyez, puisque dans cet ouvrage, il y a à la fois les vedettes, bien sûr, mais aussi, et au moins autant, les acteurs dits de complément, les acteurs de second plan, qu'on aime tellement, Raymond Chira et moi, et sur lesquels, de fait, on a écrit beaucoup.
Alors, les petits coups de cœur, actrices et acteurs préférés.
Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens très connus, bon, et puis les gens moins connus. Je vais vous... Alors, dans les plus connus, moi, j'ai toujours professé une immense admiration pour Daniel Darieux. Daniel Darieux, elle est née en 1917, hein, ça n'est pas être discourtois que de le rappeler, c'est-à-dire qu'elle a 95 ans aujourd'hui. Elle ne joue plus beaucoup, mais elle a joué encore et au cinéma et même au théâtre jusqu'à il n'y a guère. Et il me semble que Darieux, c'est une grâce, un esprit, une capacité à la fois à jouer la comédie, à chanter merveilleusement.
L'instant du dernier rendez-vous, absolument. Semble-t-il.
Ah, qu'il doit être doux et troublant. L'instant du premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on a les mêmes références. C'est ce grand film de 1941 dans lequel elle chantait ça. Et c'est une chanson de René Silviano et Louis Potras. Il faut toujours rappeler le nom des auteurs des chansons qui nous ont fait rêver. En tout cas, vous et moi, peut-être pas à l'époque parce qu'on n'était pas nés, mais ensuite. Donc Darieux, c'est la grâce. Elle aurait pu, si elle avait voulu, mener une carrière hollywoodienne. Elle a été sollicitée d'ailleurs. Ça n'a pas été très concluant, mais elle avait toute la grâce, toute l'intelligence des grandes actrices de comédie, comme Irene Dunne ou Catherine Hepburn, je crois. Voilà. Alors par ailleurs, je vais vous citer des gens moins connus, une actrice moins connue que je trouve admirable, qui s'appelle Gabrielle Fontan, qui figure dans notre livre, qui a l'air d'une petite souris comme ça, discrète, etc., qui a souvent joué les domestiques, les gouvernantes, et qui est une actrice d'une finesse et d'une intelligence absolument épatante. Voilà, voilà pour les femmes. On pourrait dire la même chose pour les hommes.
Et alors pour des acteurs, alors des Gabin, des Pierre Frenet, oui, par exemple.
Alors ne m'en veuillez pas, moi je vais vous parler de Jules Berry. Acteur absolument hors du commun en France, parce que Berry n'était pas... Il avait appris l'art dramatique, bien sûr, mais il ne jouait absolument pas comme les gens de sa génération.
Dans Volpone, par exemple.
Il n'est pas. Il n'est pas dans Volpone.
C'est Harry Bohr.
C'est Harry Bohr qui joue Volpone, d'ailleurs. Non, c'est un acteur, comment vous dire, plein de fantaisie et impossible à circonscrire. Vous savez, il n'apprenait que très approximativement les textes, que ce soit d'ailleurs des pièces de théâtre qu'il interprétait au boulevard. Ça a été une immense vedette de théâtre dans les années 20 et 30. Et alors au cinéma, c'est la même chose. Il improvisait, il avait ce talent qui désarçonnait ses partenaires, mais ce talent extraordinaire d'improviser. Et quand on le voit par exemple dans Le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir, qui est un film absolument admirable de 1935, on voit bien que certains de ses partenaires sont désarçonnés. Mais peu importe. Dans Le Jour se lève de Marcel Carné, il est admirable. Bien sûr, dans Les Visiteurs du soir, où il joue le diable, ce qui lui va très bien, parce qu'il y avait quelque chose de diabolique chez Berry. Alors maintenant, il faut que je vous cite un acteur de second plan moins connu que Berry. Ben, je vous citerai Jean Brochard, qui a fait une énorme carrière au cinéma. Un acteur dont vous trouverez le portrait et tout le monde va dire « Ah mais oui, c'est lui !» etc. Bon, c'est un acteur absolument formidable, d'une sûreté. C'est d'aussi bonne qualité que François Perrier. Il avait le même type de physique, vous voyez, pas très spectaculaire, mais une justesse dans l'interprétation et un esprit admirable. Il y en a 250 comme ça.
C'était Olivier Barrault, rencontré au château du Clos de Vougeot en septembre 2012 lors de Livres en vigne. Il évoquait alors un autre micro, Ciné Club, disponible aux éditions Flammarion. Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec un autre reportage. Cette fois-ci, vous pourrez entendre François Huguenin pour Les Voix de la Foi. Très bonne soirée sur Radio, nous vous écoutez Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber ducking, rocking jam is fun, fun, loving, yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer. Make we bring with family and let's tell some friends, and everyone will have a jam jam session.
Good night, star. Good night.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
J'espère que vous passez une très bonne soirée en notre compagnie. Encore quelques minutes ensemble sur votre radio locale. François Huguenin est historien des idées, il est également essayiste. Il a signé en 2013 une histoire intellectuelle des droites et très récemment, il a fait paraître aux éditions Perrin les grandes figures catholiques de France. Nous l'avions rencontré en 2013 pour Les Voix de la foi, sous-titré 20 siècles de catholicisme par les textes. Explication et développement par François Huguenin.
J'ai fait partie des gens qui ont travaillé leur littérature française sur le Lagarde et Michard et qui finalement n'en gardent pas un si mauvais souvenir que cela. L'idée, c'est effectivement de présenter au lecteur, d'une manière historique, donc chronologique, le patrimoine théologique, spirituel, historique du catholicisme des débuts, c'est-à-dire juste après la mort de Jésus-Christ, jusqu'à nos jours.
Parce qu'on a les textes même de Benoît XVI. Hein,
on va jusqu'à Benoît XVI, jusqu'à Jean Vannier, jusqu'à des gens même vivants aujourd'hui. Hein. Il y a trois vivants dans cette anthologie qui sont le pape Benoît XVI, Jean Vannier et le théologien jésuite Gustave Martelet. Et puis, on se balade des pères de l'Église aux grandes encycliques du XIXe et du XXe siècle, en passant par les grands théologiens comme Thomas d'Aquin ou les grands mystiques. Thérèse d'Avila ou bien des beaucoup moins connus. L'idée, c'est de permettre au public chrétien, catholique...
C'est ça, pardonnez-moi, c'est que finalement, ce livre s'adresse alors ou à des étudiants, peut-être en histoire, qui auraient besoin vraiment de se remettre à niveau par rapport à une culture chrétienne qui s'est beaucoup perdue en France.
Tout à fait.
Donc c'est quand même un ouvrage, Les Voix de la foi. Bon, le titre parle de lui-même, mais c'est un livre à destination d'un public chrétien.
Alors, il y a deux destinations, parce que c'est un livre qui est à la fois le livre d'un croyant, ce que je ne cache pas, je suis catholique romain, mais c'est aussi le livre d'un historien. Donc ce que j'ai voulu, c'est... Je vise deux publics, si vous voulez. Les catholiques qui n'ont pas le temps, n'ont pas toujours la culture nécessaire, n'ont pas eu le temps de développer des heures de lecture pour connaître tout le patrimoine qui est celui du catholicisme. Et je crois que sans la compréhension de la profondeur de champ, on est mal à l'aise par rapport à un certain nombre de questions contemporaines. On a tout intérêt à relire la grande tradition de l'Église et on peut faire son miel de tel ou tel auteur. Et puis, pour ceux qui sont un peu en marge, mais que l'idée de Dieu, que la grande culture catholique intéresse, titille, eh bien, je trouve que le biais historique est intéressant. C'est une histoire que je leur propose et une histoire dans laquelle je les guide, puisque chaque texte est introduit par un petit commentaire qui présente l'auteur, le contexte et l'enjeu du texte. Et puis, il y a quatre grandes parties, qui sont les quatre grandes parties chronologiques de l'histoire du catholicisme, que j'introduis en une dizaine de pages, pour que le lecteur puisse comprendre les grands enjeux de la période. Et dans ce livre, je balaye trois grands territoires, ce que j'appelle l'intelligence de la foi, ou ce que Newman appelait le développement du dogme, comment la pensée du catholicisme s'est petit à petit construite, le rapport au monde et aux autres, qui est extrêmement important, et là on a des questions politiques, sociales, de grande importance, et puis, dernier point, la mystique, c'est-à-dire le rapport de l'homme à Dieu. Et là, je pense qu'en 200 textes et tout ce que j'ai pu y mettre autour, on a une vision à la fois historique dans son mouvement, mais aussi thématique assez complète de ce qu'est en fait le catholicisme.
Alors il y a effectivement des textes, donc vous l'avez dit, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, donc les pères de l'Église, Bernard de Clairvaux, François d'Assise, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Juste une question d'actualité. Comment l'Église française, notamment, va-t-elle trouver sa place face à la loi qui risque d'être votée en 2013, la loi instituant le mariage homosexuel dans notre pays?
C'est une vraie question de société aujourd'hui. Je crois que l'Église, dans son ensemble, parle de manière assez claire, que l'Église de France, par l'intermédiaire du président de la conférence des évêques de France, le cardinal 23, archevêque de Paris, ou du cardinal Barbarin, primat des Gaules, cardinal archevêque de Lyon, a parlé de manière très, très forte. On a pu reprocher à ces évêques parfois d'avoir parlé fortement, mais peut-être qu'on est aujourd'hui trop dans une civilisation où on édulcore le débat. Le débat est important. Il faut savoir que, quelle que soit la foi qu'on a ou qu'on n'a pas, nous sommes dans une civilisation qui est foncièrement, qui a été marquée et construite par le catholicisme. À cet endroit, au château de Clovougeot où nous sommes, qui est un fleuron de la civilisation par les vins qui y sont produits, mais on voit bien que c'est pétri de catholicisme. Ce sont les moines qui ont fait ce terroir-là, qui ont fait ce bâtiment dans lequel nous sommes. La nature humaine se construit dans la culture. Et donc, il faut faire très attention. Si on change de manière radicale et de manière, je dirais, pusillanime, les lois du mariage, on risque de profondément bouleverser, pas seulement un système de foi et de croyance, auquel moi, effectivement, je tiens, mais un système de société. Et notamment dans cette idée toute simple qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et ceux qui promeuvent ce projet de loi du mariage homosexuel me paraissent bien inattentifs à la douleur des enfants qui ont eu la peine de perdre un de leurs deux parents et qui n'ont pu être élevés que par un homme ou par une femme et qui savent ce qui manque en termes d'affection à un enfant. Et je crois qu'il y a malheureusement trop d'idéologie et qu'il faut revenir à une conception réaliste, saine, non idéologique de la nature humaine. Et je crois que c'est une des grandes qualités de l'Église catholique, encore une fois, quelle que soit sa propre croyance, ses propres convictions de foi, un des grands mérites de l'Église catholique de prendre l'homme tel qu'il est et d'essayer de l'accompagner sur un chemin d'humanité.
C'était à l'instant François Huguenin pour Les Voies de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes, paru aux éditions Perrin en 2012. Je rappelle que cet historien des idées, qui est également essayiste, a publié l'an dernier chez Perrin Les grandes figures catholiques de France.
Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été en notre compagnie ce soir sur Radio. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 11 janvier à 21h, pour un nouveau numéro de votre rendez-vous littéraire et culturel qui sera entièrement consacré à la collection des dictionnaires amoureux des éditions Plomb, avec notamment 4 ouvrages. Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, signé Vladimir Fedorovski, le dictionnaire amoureux de San Antonio de Éric Bouillet, le dictionnaire amoureux de Tintin par Albert Algou, et enfin le dictionnaire amoureux de la montagne de Frédéric Thirier. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de Wagon Livre de l'année 2017. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Radion. Merci de votre curiosité, de votre fidélité, de votre écoute. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir, à très bientôt.